Je suis venu en Australie la première fois avec un échange universitaire. Je suis depuis en aller-retour entre la France et l'Australie et je suis installé récemment depuis quelques années maintenant à Sydney.
La conservation du patrimoine, comment c'est arrivé dans votre vie ?
Je pense qu'une des forces de l'éducation française, c'est d'investir les enfants dans leur patrimoine. Et dès le plus jeune âge, on a visité les maisons, les châteaux, on a fait des activités, on a appris l'histoire. Et c'est vrai que c'est une passion qui est née depuis. Et du coup, j'ai continué mes études et j'ai fait des études de droit qui m'ont conduit à étudier à Paris un master de droit du patrimoine culturel. Quand je suis revenu en Australie après quelques années en France, j'ai trouvé cette opportunité aux maisons historiques, Historic Houses Association of Australia. L'association a une trentaine d'années, mais on est actuellement dans une période de renaissance qui consiste à développer notre réseau de maisons historiques à travers l'Australie et pas seulement à Sydney, dans toute l'Australie. Et l'objectif étant un peu de créer un réseau de maisons classées ou classées en devenir, et surtout de maisons privées, un peu sur le modèle de la demeure historique en France ou en Angleterre. Il existe également une grande association de maisons historiques qui s'appelle Historic Houses, qui fait un petit peu de pair avec le National Trust, qui est la grande institution patrimoniale britannique et d'ailleurs également australienne. Mais il n'y a pas de pendant privé en fait en Australie qui représente les intérêts des propriétaires privés de bâtiments historiques et de sites historiques. Et donc c'est l'objectif que l'association s'est fixé depuis quelques années maintenant, 2-3 ans.
Quelles sont vos ressources ? Comment est-ce que vous y prenez pour accomplir ces missions-là ? Quelles sont les idées que vous avez récemment expérimentées de manière à lever un peu des fonds et essayer d'être performant ?
Alors, le fait est qu'on est complètement indépendant du gouvernement. On n'a pas de subvention à l'heure actuelle. On dépend complètement de la souscription de nos membres et d'un programme d'événements que l'on met en place tout au long de l'année, principalement à Sydney parce qu'on est basé à Sydney, mais on a aussi des visites dans toute l'Australie, la prochaine étant à Brisbane en juillet, où on va visiter les maisons historiques de Brisbane. Et il y a beaucoup de plus qu'on imagine en fait, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail pour mettre en valeur le patrimoine bâti, notamment des maisons en Australie, parce que beaucoup de gens ignorent en fait le patrimoine existant déjà.
Dans quelles conditions est-ce qu'on peut participer à ces visites? Est-ce qu'il faut être membre de votre association pour pouvoir y avoir accès?
Alors pas forcément, on a certaines visites qui sont uniquement destinées à nos membres, mais pas forcément, et on accueille vraiment tout le monde, hein, toutes les personnes intéressées par l'histoire australienne et par des beaux endroits, parce que c'est vrai que ce qui est assez incroyable, c'est que toutes ces maisons renferment à la fois des histoires, l'histoire avec un grand H, mais également tout simplement des endroits très agréables pour passer un après-midi ou découvrir un peu plus, ne serait-ce que dans son propre voisinage en fait.
C'est quoi une historic house ?
Alors les critères de classement en Australie sont relativement complexes, puisque l'État fédéral faisant qu'il y a différents critères sur différents États. Ça fait partie aussi des questionnements qu'on essaye de mener à l'association, c'est d'accompagner en fait les propriétaires qui se voient proposer d'être listés et qui ne sont pas forcément, contrairement à la France, obligés d'accepter, et donc d'évaluer un peu le pour du contre de savoir quel est l'intérêt d'être listé en tant que monument historique. Il faut savoir qu'on est dans un cadre extrêmement différent de l'Europe et notamment de la France. Le problème principal de l'Australie actuellement en termes de patrimoine, c'est que les monuments historiques ont beaucoup d'obligations et peu d'aides en contrepartie, contrairement à la France, même si c'est aussi difficile en France pour les monuments historiques, pour les monuments privés, j'entends, hein, toujours. Et l'objectif d'une association comme la nôtre, c'est aussi de militer pour la création de systèmes d'aide pour aider les propriétaires privés.
Est-ce que c'est symptomatique, ce que vous venez de nous dire, de la conception australienne de la conservation du patrimoine ?
Alors, il y a un problème qui me semble fondamental, c'est au niveau touristique, puisque la plupart des institutions touristiques ne sont pas forcément sensibles à la valeur ajoutée du patrimoine. Nous avons produit une conférence cette année, en avril, dédié aux problématiques liées aux monuments historiques privés, et on a demandé donc des soutiens gouvernementaux et également approcher les institutions spécialisées dans le tourisme qui nous ont donné une fin de non-recevoir et qui nous ont dit que le patrimoine, ce n'est pas une chose qui les intéressait particulièrement, ce qui est vraiment un souci hein, quand on pense à un quartier historique comme le The Rocks à Sydney hein, qui attire des milliers de personnes, hein, même voire des millions de personnes par an. Alors effectivement, bah, c'est une partie emblématique hein, du patrimoine australien, mais en fait, il y a beaucoup plus qui reste complètement inconnu du grand public et qui pourrait intéresser les touristes, que ce soit les touristes nationaux, hein, les touristes d'Australie, mais également les touristes internationaux. Par exemple, quand on pense à The Rocks et à l'Opéra, hein, donc dans ce quartier très historique, le plus visité d'Australie en termes de nombre de visiteurs par an, et bien dans un radius de 5 km, vous avez des propriétés privées pas du tout mises en valeur, pas forcément connues. Et c'est ce qu'on essaye aussi de relever, hein, le niveau de standard d'accueil de ces maisons historiques, de relever le profil public en fait pour que les gens connaissent ces endroits et aient envie de le visiter et partagent cet enthousiasme, ce qui n'est pas forcément facile.
Et comment on sensibilise les institutions touristiques à la valeur de ce patrimoine justement, parce qu'ils y ont bien entendu un intérêt commercial ?
Absolument. Alors, bah, notre objectif pour l'instant, nous, c'est de nous développer pour avoir une voix, hein, une voix au chapitre. Hein. Et nous sommes actuellement en train de construire notre réseau pour pouvoir avoir effectivement cette force autour d'une table de discussion où on pourra mettre en avant l'intérêt de promouvoir et de considérer le patrimoine privé comme un élément économique prépondérant. Et il y a des études qui ont été faites, notamment en Angleterre, qui ont été menées par les maisons historiques anglaises, qui prouvent que l'impact économique des maisons historiques qui est bien, bien plus large que seule la billetterie et les quelques emplois qu'elles peuvent fournir, mais tout un bassin économique qui peuvent se créer autour de ça. Alors, il faut quand même aussi dire que l'Australie a faiblesse, c'est que la densité patrimoniale est beaucoup moins élevée qu'en Europe et les défis sont différents. Quand on a une maison historique qui peut être incroyable, mais qui est à 5 heures ou 7 heures d'une grande ville, comment on fait pour attirer effectivement des visiteurs ? Quel est le modèle économique dans une situation comme celle-ci ? C'est des questions que nos membres se posent, sur lesquelles ils ont besoin d'aide et sur lesquelles on est en train de travailler pour pouvoir les aider.
Quelles sont les conditions pour devenir membre de votre association ? Aussi éventuellement pour devenir bénévole et essayer d'apporter une aide individuelle à ce noble dessein ?
Alors nous on accueille tout le monde, hein. Tout le monde est bienvenu, si vous avez un intérêt particulier dans le patrimoine culturel, contactez-nous, www.hha.net.au. On accueille des bénévoles, on est effectivement une association de bénévoles également. Pour devenir membre, eh bien, vous souscrivez tout simplement, il n'y a pas de critères particuliers. Ceci étant, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui possèdent ou qui vivent dans des maisons historiques et qui souhaitent devenir membre en tant que propriétaire, alors là il y a différents protocoles, mais je vous invite à nous contacter pour pouvoir en discuter. Sachant que vous soyez une maison ouverte au public de type maison musée, hein, ou vous soyez un B&B ou tout simplement une maison fermée au public, privée, hein, mais qui a un intérêt patrimonial particulier, eh bien, on accueille tout le monde. Les problématiques sont différentes. Il y a des points communs importants, hein, et notamment comment pouvoir focaliser toute cette aide. Et je vous donne un exemple, hein, tout simple. Ça coûte beaucoup d'argent de maintenir et d'entretenir une maison historique. Lorsqu'elle est listée, on a des impératifs très clairs, notamment sur les méthodes de conservation et de restauration. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et du coup, ça coûte d'autant plus cher. Les ouvriers qualifiés sont difficiles à trouver également, ou très occupés. Tout ça, c'est vraiment un vrai casse-tête, hein, pour les propriétaires. C'est la même chose en Europe, sauf que en Europe, lorsque vous avez une maison historique classée, bien vous pouvez demander des rabattements d'impôts sur des travaux comme par exemple le toit ou sur l'isolation. Il y a une chose importante que j'aimerais dire quand même, et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément comprise par tous les Australiens, et d'ailleurs ça peut être le cas aussi en France, hein, c'est qu'en fait, quand on est propriétaire d'une maison historique, la plupart des propriétaires de maisons historiques, certes sont propriétaires privés d'un bien privé, c'est leur bien, c'est vrai, mais ils sont également en fait que de passage. Beaucoup d'entre eux voient finalement en fait un rôle de gardien d'un lieu d'histoire qu'ils passeront aux générations futures. Et en fait, ce lieu d'histoire, il n'appartient pas à une personne en particulier, mais à une communauté autour de ce lieu-là. C'est vrai que lorsqu'on attribue des avantages, par exemple fiscaux ou autres, ou subventions, à une maison privée, en fait, on ne favorise pas seulement l'intérêt privé de la personne qui y habite, mais également l'intérêt de la communauté autour de ce lieu-là, qu'il soit d'ailleurs ouvert ou pas au public, puisqu'il peut être fermé en 2018 et ouvert en 2050. Sauf que s'il y a eu des gouttières et que la maison est détruite, eh bien, c'est un peu trop tard et il ne reste plus que les yeux pour pleurer.
Combien de maisons historiques à Sydney ?
Alors, c'est difficile à quantifier. Il est sûr que les zones comme Sydney, comme la Tasmanie, comme Melbourne, sont des zones où il y a une densité patrimoniale plus importante. Mais en fait, il faut aussi aborder l'aspect patrimonial d'un point de vue un peu différent que juste l'aspect historique. Et je pense notamment à tout ce qui est patrimoine du XXe siècle, puisqu'en fait, énormément de patrimoine australien a été construit après la guerre, en fait, hein, et de l'architecture de première importance. Et l'exemple, l'exemple le plus célèbre d'entre tous, c'est tout simplement l'Opéra de Sydney, hein, qui n'a que 44 ans, hein, mais qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'équivalent privé de l'Opéra de Sydney, hein, mais il peut y avoir, et il y a dans toute l'Australie, qu'on soit à Sydney ou ailleurs, des constructions qui datent des années 50 ou 60, de première importance, et qui reposent la question, en fait, quelle est la définition du patrimoine ? Quand on voit d'un point de vue français, bon, y a effectivement un aspect historique évident. Mais quand on est australien, qu'on a une communauté qui vient du monde entier, qu'on a une histoire de 200 ans d'histoire moderne et de millénaires avec les aborigènes, eh bien voilà, on pose la question un peu différemment. Et je trouve que c'est une question qui est tout à fait intéressante à poser en 2018. C'est où commence et où se termine les définitions du patrimoine en Australie.